toujours avec Christine Rousseau qui change de chapeau pour ce nouveau segment. On va revenir en fait à ta formation. Tu es avocate de formation.
Oui, ma formation initiale, tout à fait.
Et tu l'as bien décrit, tu as un grand intérêt en ce qui est la défense des droits de la personne, en ce qui est les affaires publiques, les débats sociaux. Et aujourd'hui, on veut aborder cette question-là d'accommodement du milieu du travail, en fait, envers les personnes en situation de handicap. Le 17 février, on avait reçu à Ça vaut le détour Maître Soudi Bakary à propos justement des obligations que les employeurs ont en matière d'accommodement lorsqu'un employé développe une limitation fonctionnelle ou devient handicapé suite à un accident, et ce, même s'il ne se trouve pas sur le lieu du travail. Mais donc, la question qui se pose, qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que faire si on a déjà une condition qui pourrait engendrer une situation de handicap?
Oui, parce que honnêtement, Maxime, c'est vraiment une grosse question. Je pense que quand on vit avec une situation de handicap, c'est la première question qu'on se pose aussitôt qu'on est appelé à aller en entrevue.
Mm-hmm.
Parce qu'on se dit, est-ce que je dois le dire ou est-ce que je le dis pas? Donc, c'est ça.
Surtout si on parle de situations qui sont invisibles, qu'on peut appeler les handicaps invisibles, entre guillemets. Parce
que
si moi, je me présente avec mon fauteuil roulant, c'est plutôt évident. Mais c'est pas le cas pour tout le monde, en fait.
Oui, puis dépendamment aussi parce que les processus de sélection sont de plus en plus variés. Donc, peut-être que toi, tu te présenterais un processus de sélection et peut-être que ce sera un examen en ligne et que t'es pas à ce moment-là, on te verra pas. Donc, on verra pas nécessairement le fauteuil roulant. Et à ce moment-là, tu vas te dire, à quel moment est-ce que j'aborde le sujet? Est-ce que si je dois... Parce que c'est de plus en plus en vogue aussi de la part des employeurs de nous faire remplir des questionnaires médicaux pré-embauche. Donc, les questionnaires sont de plus en plus détaillés. Et là, à ce moment-là, on va très loin. Et il n'y a pratiquement là, aucune manière là, de mettre ce fait-là si on vit avec une situation de handicap.
Tout à fait. Et par contre, justement, en vertu de la Charte des droits et libertés, un employeur ne peut pas discriminer ni à l'embauche, ni une fois à l'emploi, une personne en situation de handicap.
C'est ça. Donc, le grand principe, là, il demeure le même. Parce que comme vous en avez parlé avec Maître...
Soudi Bakary.
Oui, la dernière fois. Donc, les employeurs ont une obligation d'accommodement raisonnable, donc que ce soit à l'embauche, mais aussi une fois une fois intégré, donc, au poste de travail. Le hic ici, c'est que est-ce qu'on a aussi une obligation, nous, de notre côté, en tant que personne qui vivons une situation de handicap, est-ce qu'on a une obligation de le divulguer lors de l'embauche?
Mm-hmm. Ça tombe un peu dans un flou. Et l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce procès qui vient de se terminer. On attend toujours le verdict, cela dit. Mais donc, les plaidoiries sont terminées. C'est ce procès d'une femme, en fait, qui conteste la décision de son employeur. Est-ce que tu peux nous remettre un peu en contexte? Comment ça a démarré?
Oui, donc il y a à peu près une semaine et demie, j'ai suivi ce procès-là pour vous, pour moi aussi, parce que ça m'intéresse énormément. Je considère que ça soulève une question qui est très, très importante, là, cette obligation-là ou pas de divulguer lors de l'embauche et les conséquences que ça entraîne. À ce moment-là, donc, dans cette cause-là, c'est la Commission des droits de la personne qui représente une dame, je la nommerai pas parce que si, bon, c'est pas nécessairement nécessaire, contre une compagnie à numéro. Ce qui se passe, c'est que la dame, elle a un diagnostic de sclérose en plaques lors de l'embauche, sauf que ça ne représente aucune restriction pour elle pour exercer ses fonctions à ce moment-là en tant que préposée aux bénéficiaires. Et un peu plus tard, donc, est embauchée, commence à travailler, et là, arrive une poussée de sclérose en plaques.
Mm-hmm.
Comme on le sait, à Canalem et tout, on sait que les poussées de sclérose en plaques, là, c'est aléatoire. Hein? On le sait pas. Ça peut m'arriver peut-être dans 2 ans, dans 1 an, dans 6 mois, on le sait pas.
Très difficile à prévoir, donc, même de mettre un calendrier là-dessus.
Exactement. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que la dame, donc, en question, a une poussée de sclérose en plaques, obtient de son médecin un arrêt de travail, sauf que... Selon madame, l'employeur réagit très, très mal à ça, disant que, puis là, je répéterai pas le vocabulaire qui est employé, sauf que disant que, écoute, là, tu me mets dans le pétrin et si je l'avais su, je t'aurais pas engagé.
Donc, tout de même, si on revient encore à ce dilemme-là de le dévoiler ou non, parce que finalement, peut-être que si elle l'avait dévoilé, elle n'aurait pas eu son emploi. Donc, c'est encore ça. Vraiment de la discrimination.
Exactement. Parce que là, on se dit, écoute, si mon employeur me dit si je l'avais su, je ne t'aurais pas engagé, ça justifie clairement ma crainte au départ de l'avoir divulgué. On est d'accord.
Exactement.
De l'autre côté, puis on se dit, ben ça démontre aussi que, ben finalement, si je l'avais dit, il m'aurait pas embauché, donc il m'aurait discriminé lors de l'embauche. Sauf que ça entre en contradiction avec des principes qu'on a en droit civil quand vient le temps de passer un contrat. Quand moi, disons que Maxime, toi et moi, là, on veut faire un contrat, moi, disons que, puis un contrat de travail, c'est aussi un contrat au sens général du Code civil. Bien, il faut quand même que les deux, quand on décide de signer dans le bas de notre contrat, il faut quand même qu'on soit consentant. Il faut que notre consentement soit libre et éclairé. Puis pour ça, il faut que j'ai toutes les informations nécessaires pour prendre ma décision mm-hmm. puis pour dire que oui, je suis d'accord pour conclure un contrat avec toi.
Mm-hmm.
Mais là, c'est ce qui est invoqué. On va dire, écoutez, l'employeur, ne sachant pas cette situation-là, n'a pas eu un consentement qui était libre et éclairé. Et à ce moment-là, il y a un vice de consentement. Et aussitôt qu'il y a un vice de consentement dans un contrat, bien, on peut le faire annuler.
Mm-hmm. Donc, c'est un peu là-dessus que, finalement, l'avocat de l'employeur a déposé sa
Tout
défense.
À fait. Tout à fait, en s'inspirant et en invoquant un jugement de la Cour d'appel qui date de 2012. Et là, la grande question, ça va être, est-ce que le Tribunal des droits de la personne va aller dans la même lignée que le jugement de la Cour d'appel qui dit la naissance de l'obligation d'accommodement raisonnable, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est née? Si on n'avait pas divulgué ou si on a fait une fausse déclaration ou si on a omis de le dire lors de l'embauche,
mm-hmm.
c'est là la grosse question. Est-ce que le tribunal va aller dans le même sens que la Cour d'appel en 2012?
Donc, en fait, il y a deux issues possibles, finalement. Pour chacune des issues, brièvement, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça aurait comme conséquence et comme effet? Donc, en premier, allons-y, si elle y va dans le même sens que cette décision-là de la Cour d'appel en 2012, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence?
Si elle va dans le même sens, ça veut dire que madame n'a pas le droit à aucune réparation pour le congédiement qu'elle a subi. Donc, ce qui veut dire que madame ne peut pas invoquer absolument rien contre le fait qu'elle ait été congédiée.
Mm-hmm. Et par rapport, qu'est-ce que ça aurait comme conséquence pour les prochaines personnes en situation de handicap qui postulent à l'emploi? Qu'est-ce qu'il y aurait à ce moment-là?
Ça a le fameux effet très, très négatif de se dire que, écoutez, si je ne divulgue pas lors de l'embauche, après coup, même si j'avais une possibilité d'accommodement raisonnable, qui serait raisonnable dans les faits, là, même s'il y avait une possibilité d'accommodement raisonnable, mon employeur peut se défiler,
mm-hmm.
peut dire que, écoutez, moi, j'ai pas besoin de t'accommoder, mais l'obligation n'est pas encore née parce que tu me l'avais pas dit lors de l'embauche.
Mm-hmm.
C'est une énorme question.
Et si la dame remporte la cause, si donc le c'est tranché en sa faveur, qu'est-ce que ça aurait comme conséquence?
Si elle gagne, au moins, ça veut dire qu'on est capable d'aller au-delà de ça puis de prendre en considération toute la situation sociale que vivent les personnes en situation de handicap, que ce soit au Québec ou au même au niveau international, le droit au travail des personnes en situation de handicap n'est pas du tout gagné, là. C'est extrêmement difficile d'intégrer le marché du travail et la discrimination se passe beaucoup, beaucoup en amont lors de l'embauche. On a souvent beaucoup, beaucoup de mal à mettre le doigt dessus, dire oui, probablement que j'ai été discriminée, là. Bien, puis les statistiques le montrent. Il y a tellement peu de gens qui vivent une situation de handicap qui réussissent à intégrer le marché du travail et même encore moins le marché du travail régulier.
Mm-hmm. Oui, tout à fait. Et c'est aussi quelque chose qui est très difficile à prouver, cette discrimination-là.
Tout à fait. Et donc, il faut absolument prendre tout ça en considération et surtout aller dans le même esprit que le législateur a eu quand il a adopté l'article 16 de la Charte québécoise et a voulu enrayer à la source même toutes les sources de discrimination, entre autres fondées sur le handicap.
Et en terminant, Christine, Est-ce que c'est une situation fâcheuse, mais est-ce que au moins ce débat-là va permettre de peut-être faire réfléchir le milieu du travail et de voir est-ce qu'il y a moyen de justement imposer ce moment-là où employeur et employé, une fois le processus d'embauche terminé peut-être, s'assoient à la table ensemble et parlent de questions de santé. Et ne serait-ce que non seulement pour les personnes des gens en situation de handicap, mais tous les travailleurs, parce que nul n'est à l'abri de différentes situations en santé mentale, en santé physique.
Tout à fait.
Est-ce que ça peut faire avancer au moins cette réflexion-là dans le milieu du travail?
Mais je vous dirais que le CAMO, par exemple, pour les personnes handicapées, pour qui vise à intégrer là, les gens qui vivent une situation de handicap sur le marché du travail, dit souvent, il faut absolument expliquer à l'employeur de manière très positive qu'est-ce qu'on vit. Donc, qu'est-ce que ça nous a apporté, non seulement d'expliquer la limite, donc lors de l'embauche, là, mais expliquer la limite, mais essayer d'expliquer aussi tous les avantages, parce que oui, il y en a normalement des avantages qui sont ressortis de cette situation-là qui est difficile. Donc, le fait de pouvoir l'expliquer, puis moi, je vous dirais vers la fin du processus d'embauche. Parce que si on le dit depuis le tout début, bien là, c'est pas évident parce que ça arrive qu'on a des entrevues à ce moment-là. Très sur mesure.
Mais qu'on peut avoir des mauvaises surprises. Christine Rousseau, avocate et aussi animatrice télé, merci beaucoup de nous avoir parlé de cet enjeu et on va attendre votre suivi après après le compte rendu finalement la décision de la Cour. Merci beaucoup.
Merci.